des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour cette émission spéciale des villes et des hommes dédiée à la Fondation Eiffage. Alors, on connaît Eiffage, hein, 100 000 chantiers en 2020 en France à l'international, un des leaders européens du BTP et des concessions, 72 000 collaborateurs qui exercent à travers les métiers de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement, du génie civil, du métal, de la route, de l'énergie système et bien sûr des concessions. On a fait le tour des 8 métiers. La Fondation Eiffage, elle, eh bien, elle est peut-être un petit peu moins connue, mais c'est le but de cette émission, de vous faire connaître effectivement ses enjeux, ses problématiques, comment elle fonctionne, les projets qu'elle soutient. En tout cas, elle a pour mission de contribuer à l'insertion professionnelle des personnes en difficulté. Elle soutient des projets dans des domaines variés, la formation, l'emploi, le logement, sport et culture, en France, à l'international, là où le groupe Eiffage est présent. Point commun à tous ces projets, proposer une démarche d'insertion. Et pour mieux découvrir cette fondation, eh bien, je suis en compagnie de deux de ces artisans qui œuvrent au quotidien. On accueille Frédéric Allary. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de la Fondation Eiffage. Et à vos côtés, Diane Durand. Bonjour Diane.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission de la Fondation Eiffage. Ensemble, nous allons voir pendant cette petite heure eh bien, quelles sont les missions, les domaines d'intervention, les focus de la Fondation, comment elle fonctionne, son budget, son processus de sélection des projets. Et avec, tout au long de cette émission, eh bien, on a voulu faire quelque chose de très illustré avec, on va le voir, des témoignages qui illustreront les actions que vous menez, lutte contre le chômage de longue durée, insertion grâce à une plus grande mobilité, prévention du décrochage scolaire et formation des jeunes à travers le mentorat en particulier. Voilà pour cette émission spéciale des villes et des hommes, spéciale Fondation Eiffage. C'est parti. Et on démarre avec vous, Frédéric Allary, donc délégué général de la Fondation Eiffage. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots voilà, une introduction sur cette fondation, peut-être la genèse, comment ça a démarré?
Oui, bonjour à tous. Effectivement, la Fondation Eiffage a été créée en 2008, donc ça fait déjà 13 ans. C'est un organisme de mécénat au service d'une cause d'intérêt général. Et donc, comme vous le disiez précédemment, la Fondation Eiffage intervient sur l'insertion professionnelle et aide des associations qui œuvrent dans l'insertion professionnelle.
Avec voilà. Des projets, on l'a vu, très concrets.
Hein. Oui, des projets très concrets, on en parlera tout à l'heure, et vraiment des domaines d'intervention très divers. Voilà, donc ça, c'est un des axes de travail de la Fondation. Et on en parlera également un peu plus tard. Mais on implique nos collaborateurs, les collaborateurs du groupe Eiffage. Et ça, c'est une donnée très importante dans tous les projets que l'on soutient.
Mmh. On est pratiquement là avec le bureau hein, de la Fondation, puisque vous êtes effectivement la déléguée générale de la Fondation. Et puis, Diane Durand, vous êtes chargée de mission de la Fondation Eiffage. C'est vous un peu les forces vives de cette Fondation?
C'est nous qui l'animons. Je vais laisser Diane parler. Mais effectivement, c'est nous qui l'animons et qui faisons en sorte que les projets, de sélectionner les projets, de les proposer, de les soutenir, de les suivre dans le temps et de s'assurer que voilà, qu'au bout de la chaîne, les personnes qui en ont besoin bénéficient des fonds qu'on peut donner.
Oui. Non, je dis ça parce que quand on va voir à travers toutes vos actions, la diversité, le budget assez relativement important, vous êtes deux finalement à porter cette fondation. Alors bien sûr, sous le contrôle, conseil d'administration, etc. Diane Durand, est-ce que vous pouvez nous parler justement de vos missions au quotidien?
Oui, c'est vrai, comme dit Frédéric, il y a une grosse partie de sélection des projets qui prend quand même pas mal de temps, en fait, puisqu'on reçoit beaucoup de demandes soit d'associations, soit de collaborateurs qui, en gros, recherchent des financements pour des projets, la plupart du temps portés par des associations. Donc c'est vrai qu'on a des critères assez précis pour sélectionner les projets, c'est-à-dire qu'on va aider, on apporte une aide financière pour des investissements, mmh. Et puis il faut qu'il y ait un collaborateur qui soit vraiment impliqué dans le projet de manière concrète, c'est pas juste un soutien moral. Donc ce travail de sélection, ça passe par des dossiers écrits que nous envoient les associations, et puis une rencontre sur place avec un audit, préparer aussi donc un comité de sélection qui va ensuite approuver ou pas les projets ou demander des précisions, des conditions. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même toujours un travail de communication qui est assez important, notamment en interne au sein des phages, pour faire connaître la fondation. En fait, ce qu'on se rend compte, que c'est toujours quelque chose qui est un peu méconnu et il y a toujours besoin de se rappeler au bon souvenir des collaborateurs pour les motiver, leur donner envie de s'impliquer dans des projets, de proposer des associations.
J'ai donné quelques chiffres sur la dimension du groupe EFAGE. C'est vrai que quand on est sur plusieurs pays, plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, c'est sûr qu'on peut imaginer que tout le monde n'est pas au courant de l'existence même de la fondation. Et en revanche, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous tenez, c'est que chaque collaborateur, en tout cas ceux qui portent les projets, ils soient là, ils s'impliquent et ils soient aux côtés de l'association quand vous décidez de supporter un projet.
Tout à fait. Donc c'est vraiment une donnée majeure, c'est l'implication des collaborateurs. Et l'autre données très importantes, c'est que, comme vous le disiez, le groupe EFAGE est présent donc en France et aussi à l'international. C'est la dimension, la proximité, la dimension, être plus proche des projets que l'on soutient. C'est ce qui donne aussi du sens et qui va motiver les collaborateurs à s'impliquer. C'est que quand il y a un projet qui se passe à côté de chez eux, ils vont vouloir y aller, soutenir. Enfin voilà, donc c'est vraiment
l'ancrage territorial.
L'ancrage territorial, à l'image du groupe, l'ancrage territorial est extrêmement important, effectivement.
Le bénéfice justement pour le groupe de créer cette fondation qui est finalement relativement récente, c'est quoi ? C'est de créer du lien, de justement montrer cette proximité, parce qu'il n'y a pas que le BTP ou les différents travaux, il y a aussi cette mission d'aider nos concitoyens et au-delà, au quotidien.
Oui, quand même, à le dire, notre PDG, Benoît de Ruffray, qui est aussi le président de la fondation, EFAGE, c'est une famille et donc qui porte des valeurs, mais ces valeurs, il ne suffit pas de les dire, il faut les vivre aussi. Et donc la fondation est aussi un moyen pour les collaborateurs de s'impliquer, ça donne du sens. Aider des personnes en exclusion qui ont des parcours de vie compliqués, savoir qu'on les aide à se relever, à avoir un nouveau projet de vie, c'est une fierté personnelle, c'est un accomplissement. Et on s'aperçoit que nos salariés, que ce soit, mais même des personnes qui sont en retraite, ont envie de s'impliquer. Ça donne beaucoup de sens à ce qu'ils font.
D'accord. On va parler, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, des gros sous, le budget. Quel est le budget, Frédéric Allary, et comment il est utilisé ?
Le budget, donc, c'est environ 500 000 euros par an qui sont attribués. C'est un budget de 2,5 millions entre 2000... Donc, je n'ai plus les dates.
2019 à 2024.
2019 à 2024. Voilà.
Et on fait une petite division. 2,5 millions, 5 ans, ça fait 500 000 euros par an pour ces projets.
Tout à fait. Et donc, il y a deux façons. Notre soutien s'opère de deux manières. Nous avons donc des projets parrainés. Ce sont des projets, comme on le disait tout à l'heure, qui sont sélectionnés et où on a des parrains qui s'impliquent. Et donc là, ces projets sont sélectionnés. Donc nous avons des comités de sélection trois fois par an et on les aide à hauteur de 15 000 euros au maximum. Et ensuite, nous avons... La volonté a été d'aller plus loin, puisqu'on s'apercevait que des projets avaient des capacités à essaimer et à aller plus loin dans leur démarche. Et donc là, ce sont des projets pluriannuels. Donc c'est un conventionnement pour 3 ans. Et là, on peut aider jusqu'à 50 000 euros par an.
D'accord. Diane Durand, en termes de nombre de projets, combien
ça fait ? En moyenne, on soutient à peu près 25 projets par an. Donc depuis 2008, là, on est à plus de 300 projets et plus de 300 collaborateurs qui se sont impliqués.
Ouais, c'est formidable, hein, 300 projets déjà. Et bien sûr, ça continue chaque année. En ce moment, vous avez 4 partenariats, c'est ça, pluriannuels, c'est-à-dire qui sont reconduits, des associations qui ont un projet qui nécessite peut-être plus de moyens, qui sont suivis dans le temps.
Voilà, ce sont souvent des associations qui ont donc une dimension plus importante. Et donc, on soutient 4 associations. Il y a l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Il y a l'association Positive Planète. On va y revenir tout à l'heure et expliquer ce sur quoi elles interviennent exactement. Nous avons Réseau et comme troisième partenariat. Le dernier, c'est
article 1,
sur du mentorat de jeunes issus de milieux défavorisés. Et en fait, ces partenariats au-delà de l'essaimage, donc souvent on les aide pour ouvrir de nouvelles antennes, comme le disait Diane, c'est de l'aide à l'investissement, mais ça nous permet aussi d'avoir une autre forme d'implication pour nos collaborateurs, puisqu'on parlait du parrainage, mais il y a aussi beaucoup de bénévolat, et donc ces associations nous permettent d'embarquer les collaborateurs d'une autre manière.
Bien sûr. On va s'intéresser maintenant au fonctionnement de la fondation, comment vous procédez justement au choix des différents projets, comment se passe le comité de sélection. Et puis c'est intéressant parce que j'imagine que ceux qui vont nous écouter, en tout cas pour les francophones, ils vont se dire bah tiens, ça peut m'intéresser. Alors pratiquement, Diane Durand, comment ça se passe? On parle d'abord de ce conseil d'administration, hein, puisque vous ne faites pas quand même tout.
Ouais. Le conseil d'administration, donc, il est composé de personnes qui représentent les différents métiers des phages, plus des personnes extérieures à l'entreprise qui apportent leur expertise, soit sur le secteur associatif ou de l'insertion. Donc, le conseil d'administration, il va être plus pour donner un peu définir les grandes orientations de la fondation, et le comité de sélection qui est composé peu ou prou des mêmes personnes, mais aussi avec des représentants de la filière des ressources humaines. Du coup, va donner son aval sur les projets qui leur sont présentés.
Ouais. Réunion 3 fois par an, vous arrivez avec une liste de projets à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a une présélection, voilà. Frédéric Allary ?
Le comité de sélection se réunit 3 fois par an, au mois de mars, au mois de juin et au mois de novembre. Et donc, effectivement, on arrive avec des projets qui ont déjà été présélectionnés, dont on est sûr qu'ils matchent et qui remplissent bien les critères d'attribution. Donc les associations soumettent leurs projets sur une plateforme qui s'appelle Optimize. Suite à ça, on les sélectionne, on va les auditer.
Combien de dossiers vous avez chaque année? Vous arrivez à répondre à tous? Il faut laisser de côté?
Bon, alors après, maintenant, on a déjà une certaine expérience dont les dossiers ne sont pas toujours au même niveau d'avancement, de maturité. Donc, effectivement, on voit ceux qui vont pouvoir déboucher assez rapidement. Donc, on arrive déjà à... Et donc, effectivement, ça dépend des périodes, mais il peut y avoir un petit peu embouteillage. Donc, on va reporter sur un deuxième comité, enfin, le comité suivant des projets, parce que... On sait qu'on peut en traiter par comité entre 8 et 10.
Bien sûr.
Après, l'idée n'est pas de faire du nombre, mais de la qualité, de s'assurer que les projets qu'on présente sont solides, qu'ils vont pouvoir être soutenus et qu'au bout de la chaîne, comme je disais tout à l'heure, des personnes vont pouvoir bénéficier des fonds que l'on attribue.
Bien sûr. Alors, avis aux porteurs de projets qui nous écoutent. On a compris, il faut bosser un petit peu son dossier. Et si ça passe pas la première année, ne pas hésiter à prendre conseil, peut-être auprès de vous, auprès de d'autres qui l'ont fait, pour améliorer et puis passer peut-être l'année suivante.
Oui, et puis après, nous aussi, enfin, on échange, hein, puisqu'il y a aussi le parrain, on échange beaucoup avec le parrain. Donc, c'est une discussion qui se met en place pour aboutir le projet.
Tiens, j'ai une petite question, un petit peu de côté, bien sûr, mais durant cette année, quand même, où on a tous été en télétravail, on est un peu resté chez nous, contraints et forcés, par un petit virus qui nous a bien embêtés. On espère que c'est derrière nous. Comment vous avez fait pour continuer, justement, à faire vivre la fondation, à faire vivre aussi ces projets?
On s'est adapté comme tout le monde, donc effectivement beaucoup de visio et de réunions Teams, et puis on a malgré tout pu auditer, alors un petit peu moins l'année dernière, mais on a quand même pu auditer nos projets et on a maintenu le niveau de
d'investissement, les trois réunions annuelles, mars.
Oui, il y a juste eu finalement le premier confinement où là on a été bloqué parce qu'on ne pouvait pas se déplacer et on a dû décaler notre comité de sélection, mais on a réussi à quand même maintenir. Au contraire, je pense que les associations ont d'autant plus besoin. Oui.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est d'autant plus important cette année difficile. Hein, et quand on parle d'insertion, là, on peut dire qu'elle a malheureusement sacrément reculé dans ces années compliquées économiquement. Et c'est pas fini.
C'est justement à ce moment-là qu'il faut être présent. Et effectivement, on en reparlera aussi. On a créé un fonds d'urgence Covid-19 pour aider en urgence des associations qui se sont retrouvées.
Exemple.
Exact. Exemple Emmaüs Défi, exemple
coup de projet lié à l'aide alimentaire, dans l'urgence du premier confinement. Oui, mais aussi le soutien scolaire. Le
soutien scolaire, l'aide aux femmes battues aussi, qui sont des projets un peu à côté de ce qu'on fait normalement, habituellement. Mais c'était important de pouvoir créer ce fonds d'urgence pour aider.
D'accord. Et là, même cheminement, c'est-à-dire il y avait toujours un porteur de projet ou c'était vraiment une aide directe aux associations?
Non, là, le process était un peu simplifié pour le fonds d'urgence.
Alors, on revient à la vie normale, on va dire, et aux missions de la Fondation Eiffage. Vous répondez en priorité à des problèmes d'actualité, à des problématiques d'actualité et de société. Et il y en a une, évidemment, qui est présente malheureusement sur l'ensemble du territoire, notamment en zone rurale, c'est la lutte contre le chômage de longue durée. Exemple, justement, des territoires zéro chômeur. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que sont ces territoires zéro chômeur, Diane Durand?
Oui. Donc en fait, c'est une expérimentation qui a démarré il y a 5 ans, qui est assez innovante, puisque l'idée, c'est de donc lutter contre le chômage de longue durée, c'est-à-dire ça s'adresse à des personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an. Et l'aspect innovant, c'est qu'en fait, c'est une expérimentation qui est vraiment ouverte à toute personne volontaire pour travailler. Et en fait, dans chacun des territoires, donc il y a 10 territoires volontaires qui ont expérimenté depuis 5 ans. Et l'idée, c'était de partir vraiment des souhaits de ces personnes et de leurs compétences pour leur proposer un emploi en CDI, donc sans durée limitée, et qui répond en même temps à des besoins du territoire qui ne sont pas servis et qui ne sont pas en concurrence avec d'autres activités existantes. Et c'est aussi assez ambitieux comme démarche, parce que le but, c'est d'éradiquer le chômage de longue durée. Donc là, sur les 10 territoires, au bout de 5 ans, il y a déjà 3 territoires qui ont atteint l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de personnes volontaires pour travailler.
D'accord.
Donc c'est quand même une belle réussite. En termes de résultats, donc il y a quand même 10 territoires volontaires. Ils ont créé 13 entreprises donc à but d'emploi pour employer ces personnes. Il y a actuellement 800 personnes qui travaillent dans ces entreprises et 1000 personnes qui ont été embauchées depuis 2017. Et en fait, au-delà de ça, il y a aussi des personnes qui n'ont pas été embauchées directement, mais qui ont été remises dans une dynamique grâce au contact qu'ils ont eu avec les porteurs de projets et qui ont pu retrouver un travail par ailleurs.
Alors justement, on va voir dans un instant comment vous avez aidé pratiquement, mais je vous propose auparavant d'écouter Aurélie Matelin, les chefs de projet du comité local du projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Elle nous en parle justement de cette action de la Fondation Eiffage et comment vous avez aidé à justement cette action.
En fait, l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur, elle vise à créer véritablement le droit à l'emploi. Sur un territoire en s'appuyant sur les idées, les aptitudes, les compétences, les savoir-faire des personnes privées d'emploi et qui, à partir de là, permet de créer des services utiles, non satisfaits auprès des habitants ou donner de la valeur aux ressources locales. Et il s'agit vraiment de co-construire avec les personnes privées d'emploi et de faire avec pour créer de l'emploi supplémentaire. Aujourd'hui, on arrive à la fin de cette première étape de 5 années d'expérimentation, et 2 entreprises à but d'emploi ont été créées sur notre territoire en lien avec nos partenaires, hein, dont la Fondation Eiffage. On a donc La Fabrique, qui est une entreprise multi-activité qui porte des activités comme le maraîchage. On a un projet de conserverie avec les producteurs maraîchers ou arboriculteurs aussi du territoire, des travaux forêts pour entretenir les parcelles des communes. On a une activité de miellerie collective pour favoriser l'apiculture et le rôle des abeilles et préserver la biodiversité sur notre territoire également. On a une activité de recyclerie qui vise à détourner les objets de l'enfouissement et donner une seconde vie aux objets et avoir une vraie pédagogie auprès des habitants et des consommateurs sur ne pas forcément acheter du neuf, mais plutôt privilégier de la seconde main, ou encore des travaux liés aux bâtiments pour les collectivités ou les associations, ou des prestations diverses auprès de la maison de retraite, de la livraison du pain auprès des habitants pour continuer la tournée dans les villages et apporter les produits de première nécessité. C'est à peu près 100 personnes qui ont été embauchées au sein des 2 entreprises à but d'emploi depuis le début. Certaines sont toujours donc dans l'entreprise puisqu'elles bénéficient donc d'un CDI à temps choisi. D'autres ont privilégié un parcours de tremplin, c'est-à-dire sont rentrés dans l'entreprise, puis ont construit un projet professionnel, sont montés en compétences et ont décidé de candidater sur d'autres offres autour des entreprises aux alentours. Et on a accompagné évidemment ces projets professionnels-là. Et puis, lorsque l'on mobilise les personnes privées d'emploi du territoire, certaines, une cinquantaine d'entre elles, ont retrouvé un emploi directement sans passer par l'entreprise à but d'emploi, en lien avec nos partenaires et les employeurs du territoire. 2 personnes sur 3 ont retrouvé un emploi, sont sorties de la privation d'emploi depuis le début de l'expérimentation. L'année 2021 marque une seconde étape pour notre territoire et les 10 actuels, et puis bientôt donc de nouveaux territoires, puisque la loi permettant le prolongement et l'extension de l'expérimentation a été votée et donc nous permet de continuer pendant 5 années supplémentaires. Et en effet, on espère et on sait pouvoir compter sur la Fondation Eiffage, tant à la fois sur la gouvernance du projet au sein du comité local pour l'emploi, mais aussi en termes d'accompagnement sur le côté très pratico-pratique, que ce soit sur les aménagements des locaux, sur l'investissement dans les outils de production, la compétence métier également, sur le savoir-faire en termes de formation et de développement de compétences des salariés. C'est très important de croiser les regards et la Fondation Eiffage nous apporte un regard particulier là-dessus. Et vraiment, on espère pouvoir continuer et renforcer ce partenariat-là et travailler ensemble sur ce renversement, on va dire, de paradigme entre l'offre et la demande. Je pense que c'est intéressant et on apprend tous de cette expérimentation.
Voilà le témoignage d'Aurélie Matelin, chef de projet au comité local du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est dans le sud toulois. Et voilà, un grand merci en tout cas à la Fondation Eiffage. Et une deuxième phase 2020-2024 qui vient d'être lancée, puisqu'on le voit, cette initiative elle est extrêmement porteuse, 2 chômeurs sur 3 qui arrivent à sortir. Et puis éradication effectivement sur certains territoires de ce fléau qu'est le chômage longue durée. Frédéric Allary.
Oui, tout à fait. On est très content d'avoir pu soutenir cette expérimentation depuis le début, avec le souhait de continuer et de voir les résultats positifs qui en résultent.
Et justement, vous inscrivez, là, c'est un des projets de longue durée que vous suivez, donc l'enveloppe là, pluriannuelle, c'est reconduit chaque année.
Alors, ça va se décider à un prochain conseil d'administration, mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, notre implication dans les territoires est importante. Là, on est dans un territoire rural. On intervient aussi dans des quartiers prioritaires de la ville, dans des milieux urbains. Mais voilà, l'idée de cette expérimentation et de notre soutien, c'est de pouvoir continuer. Donc voilà, ce sera la décision d'un prochain conseil.
Et là, on voit en plus que c'est, vous le dites, un très local. On en parlait, l'ancrage territorial, l'ancrage local, avec ça peut être des petits travaux, ça peut être la miellerie, ça peut être la recyclerie, des choses dont tout le monde a besoin. On pense aussi aux seniors, la proximité. Voilà, recréer finalement aussi du lien dans les territoires.
C'est recréer du lien. Et puis, comme elle disait, c'est un CDI à temps choisi. C'est aussi des personnes qui sont en très grande exclusion. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont pas toujours les moyens de faire les 35 heures que nous faisons tous et voire plus. Mais donc, du coup, il faut leur permettre d'adapter le temps de travail pour les remettre dans le travail.
Oui, évidemment. On ne peut pas remettre comme ça des gens qui ont quitté le monde de l'emploi.
Il y a beaucoup de fragilité et l'emploi est un des paramètres, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des parcours de vie très, très chaotiques. Et donc, il y a toute cette dimension-là à prendre en compte pour remettre ces personnes dans un projet de vie.
Voilà, donc première belle initiative donc, qui est suivie par la Fondation Eiffage et très activement. De la campagne à la ville, Yann Durand, on va s'intéresser maintenant à l'action dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec l'exemple de Positive Planète. Positive Planète, fondée par Jacques Attali. Alors je dis Diane, mais c'est Frédéric qui va nous en parler.
On peut en parler toutes les deux.
Vous connaissez très bien le sujet.
On peut en parler toutes les deux, non, Diane.
On soutient l'association Positive Planète depuis de nombreuses années, en fait. Donc, cette association est fondée par Jacques Attali il y a 15 ans. Son ADN, c'est vraiment d'aider les demandeurs d'emploi dans les banlieues et les quartiers en les accompagnant pour créer leur propre entreprise. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il y a eu plus de 5000 entreprises créées et 87% des personnes accompagnées trouvent une issue positive. Soit sinon, ils créent une entreprise ou ils retrouvent un emploi derrière. Donc nous, on avait soutenu plusieurs antennes de Positive Planète à Marseille, à Roubaix, au Havre. Et puis du coup, on a décidé d'aller plus loin et de les soutenir sur plusieurs années pour l'ouverture de nouvelles antennes en région. Donc là, on a pu aider notamment l'ouverture d'une antenne à Nice. Il y a une antenne qui a ouvert dans le 19e avec un concept assez original de Positive Shop. En fait, donc c'est un magasin qui est mis à disposition des créateurs d'entreprises pour qu'ils puissent tester la vente de leurs produits parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens eux-mêmes d'avoir un bail et d'avoir un commerce.
Donc un magasin finalement partagé où on peut tester son concept, quoi.
Voilà, c'est un concept store. Et en fait, c'est ça. Et c'est là où ça rejoint Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. C'est qu'il y a plein de démarches innovantes, d'idées innovantes pour permettre aux gens de retrouver un emploi. Donc là, effectivement, les bénéficiaires peuvent tester leur idée, leur concept, voir où c'est que ça fonctionne, où c'est que ça ne fonctionne pas. Mmh. Voilà, si l'idée est pérenne. Et aussi appréhender tout ce qui est nécessaire pour monter une entreprise.
Bien
parce qu'il y a pas mal de démarches administratives, il y a la gestion, la comptabilité, enfin des personnes qui, pareil, doivent appréhender tous ces sujets-là.
Voilà, pour lancer son idée à moindre frais finalement, et puis la tester, grandeur nature, 5000 entreprises créées, 87% des personnes accompagnées qui trouvent une issue positive, c'est 9 sur 10, voilà. En traduisant, c'est quand Outre retrouve un emploi salarié, là aussi une belle réussite. Autre exemple, alors là on change complètement de secteur, mais une problématique extrêmement importante, surtout quand on est en recherche d'emploi, là aussi, problématique de mobilité, avec l'exemple de Solidaroto. Voilà, Solidaroto, c'est quoi ?
Solidaroto, ce sont des garages solidaires. Et effectivement, quand on parle d'insertion, il y a l'emploi, c'est essentiel. Mais pour trouver un emploi, il faut aussi pouvoir se déplacer. Il faut aussi régler les problèmes de logement. Enfin voilà, c'est tout cet écosystème, cet environnement où il faut gérer tout ça. Donc Solidarité sont des garages solidaires qui proposent des véhicules à prix solidaire garanti à des demandeurs d'emploi.
Voilà. Alors je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Guillaume Florençon. Il est directeur justement du garage Solidaroto 37. C'est tout près de Tours, à Joué-les-Tours exactement. Et il va nous donner les explications sur comment fonctionne ce garage solidaire.
Une association qui s'appelle Solidaroto 37, qui a vu le jour en juin 2018 et qui a pour objectif d'aider les personnes en difficulté, notamment financière, à trouver un moyen de mobilité. On propose du coup deux services, de la réparation comme dans n'importe quel garage, mais à tarif solidaire, et de la vente de véhicules d'occasion sur des véhicules, on va dire, à petit prix, aux alentours de 2000 euros, 2000 ou au pire 3000 euros, pour pouvoir accéder généralement à un emploi et éviter d'acheter sa voiture entre particuliers ou des voitures d'occasion qui ne sont pas forcément très sécurisées. C'est au moment de la création du garage, un peu avant la création du garage, qu'on a sollicité effectivement la Fondation FH pour nous accompagner sur la création de cette association. Il fallait monter de toutes pièces et qu'il fallait également financer pour acheter du matériel, faire des travaux dans le bâtiment pour le mettre aux normes de sécurité, d'accessibilité. On a postulé, on a été du coup sélectionné en tant que lauréat et puis après on a eu plusieurs échanges avec la Fondation, éventuellement aussi sur des sujets un peu techniques, pour avoir un par un, des échanges aussi locaux avec FH si besoin. Et puis ça a conduit notamment il y a quelques mois à un partenariat qui n'est pas directement lié avec la Fondation, mais avec FH et Nervis System, qui nous a donné des voitures, qui nous donne d'ailleurs régulièrement des voitures réformées pour alimenter notre activité. Je peux vous parler facilement du bilan 2020, malgré que ce soit une année qui était quand même compliquée. En 2020, on a aidé à peu près 400 personnes sur des réparations à tarif solidaire. On a pu vendre une cinquantaine de voitures sur les à peu près 200 qu'on a récupérées dans l'année 2020. Et puis tout ça, on a pu le faire grâce à une équipe du coup d'une vingtaine de bénévoles et à 7 salariés en CDI. L'idée, c'était d'ailleurs l'idée originale de l'association, hein, c'était de pouvoir aider 1000 personnes par an, donc assurer 900 réparations et vendre une centaine de voitures. On est à la moitié à peu près de l'objectif. Donc on espère qu'effectivement que 2021, qui a été quand même un petit peu entamé, et 2022 seront des années un petit peu plus facile à gérer pour notre association, pardon, et pour nos bénéficiaires qui ont été les premiers à souffrir de cette crise sanitaire et économique et qui, là, dans un second temps, vont avoir besoin de moyens de locomotion, notamment pour redémarrer un emploi ou éventuellement se remettre en recherche. Enfin, voilà.
Le témoignage de Guillaume Florençon, donc directeur du garage Solidaroto 37 à Joué-lès-Tours. On l'a entendu, hein, garage solidaire, 900 personnes aidées, des ventes aussi et des ventes de véhicules que Eiffage, eh bien, donne de son parc, on imagine, directement. Frédéric Allary.
Oui, tout à fait. En fait, suite au partenariat pluriannuel soutenu par la Fondation, il y a aussi eu un relais local. Et effectivement, une de nos agences a cédé 7 véhicules voilà, au garage, donné effectivement pour aider les personnes.
Voilà, et souvent ce sont des véhicules d'entreprise donc plutôt bien
plutôt
entretenus,
en bon état.
En bon état, et qui peuvent avoir une deuxième, voire une troisième vie pour toutes ces personnes en difficulté. Alors, petite note, hein, à ceux qui habitent dans la région de Joué-lès-Tours, vous pouvez tout à fait aller au garage Solidaroto 37. Si vous êtes dans les personnes qui peuvent être aidées, ça dépend du quotient familial, donc il faudra quand même montrer patte blanche, et vous bénéficierez de tarifs avantageux. Sinon, eh bien, vous avez les services d'un garage normal à un tarif tout à fait compétitif. Donc n'hésitez pas à aller voir Guillaume Florençon. Voilà une belle initiative en tout cas. Et puis l'initiative qui a essaimé également, puisqu'il y a plusieurs garages solidaires, Diane Durand.
Oui, c'est ça. Au départ, en fait, on avait soutenu celui de Grenoble. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de développer une fédération. En fait, il y avait un retraité d'Eiffage, donc qui est Jean Carré, qui s'est beaucoup impliqué pour aider à développer d'autres garages. Donc, on a soutenu celui de Tours, mais on en a aussi soutenu un à Clermont-Ferrand et à Nice. Ouais. Donc, voilà, toujours pour les aider à se lancer, à investir au démarrage de leur activité.
Voilà pour Solidaroto. On passe à un autre sujet, à un autre pan d'activité, la prévention du décrochage scolaire et de la formation des jeunes. L'exemple avec Ma Chance, Moi Aussi. Présentez-nous ce beau projet, Frédéric Allary.
Alors oui, Ma Chance, moi aussi est une très belle association qui a été créée en 2014 par un ancien chef d'entreprise qui s'appelle André Payerne et qui donc dont l'objet est d'accompagner des enfants qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville et qui sont en fragilité éducative. Voilà, donc à ce jour, il y a plus de 500 enfants bénéficiaires qui ont pu profiter de l'aide de l'association. Ce sont des enfants très jeunes, puisque cette association aide les enfants dès l'âge de 5 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc c'est un accompagnement dans le temps long. Donc il y a du soutien scolaire. Il y a aussi, un apprentissage au savoir-être, au savoir-vivre. Voilà, l'idée, c'est de rétablir l'égalité des chances et de permettre à ces enfants de pouvoir avoir des études et de mener une scolarité normale.
Bien voilà. Sûr, on sait que c'est important, notamment la prévention du décrochage scolaire, qui c'est efficace si c'est fait très tôt.
Voilà, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que la Fondation intervenait beaucoup, soutenait beaucoup des projets où on a des personnes qui sont déjà en situation d'exclusion. Et on s'aperçoit que si on agit plus tôt en amont, parce que ces enfants ne sont pas encore en situation de enfin voilà, ils sont encore en scolarité, pas en recherche d'emploi, donc ils n'ont jamais été confrontés à tout ça, mais que si il y a des parcours déjà identifiés où on sait que ça va être compliqué, surtout en quartier prioritaire de la ville où les difficultés se cumulent, où il y a souvent des parents qui sont en, en défaut par rapport à... par rapport à, voilà, à leur éducation. Voilà. Donc c'est un relais pour aider ces, ces jeunes enfants et c'est une très très belle association.
Voilà, des enfants qui sont plongés dans un univers bienveillant qui devient ben, voilà, leur référence peut-être par rapport à un contexte familial difficile parfois. Au moins, ben, y a ce havre de paix et ça les aide.
Il y a ceci, et puis... comment dire, il y a l'aide au soutien scolaire, mais il y a aussi une ouverture sur d'autres activités sportives, culturelles. Et donc, c'est un accompagnement global. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi un apprentissage à la citoyenneté et voilà, comment acquérir aussi les codes pour un jour pouvoir ben, trouver un travail et s'insérer.
Et s'insérer. Donc voilà, ça va. Alors, la Fondation, hein, si on fait un petit bilan jusqu'ici, ça va des plus jeunes aux plus anciens, puisque chômage longue durée, c'est souvent des gens, effectivement, qui ont perdu leur emploi et qui ont du mal, notamment... les seniors, en tout cas plus de 55 ans. On a des choses très, très pratiques. Voilà, on a vu l'exemple du garage solidaire avec la mobilité. On a les politiques de la ville, on a la ruralité. Vous êtes un peu partout. On va s'intéresser maintenant à, justement, quelles sont les retombées pour le groupe. Et vous nous avez déjà parlé, effectivement, de l'implication des salariés vraiment au cœur hein, de cette action de la Fondation. C'est eux les moteurs de tous ces, ces projets, Diane Durand.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est que ce soit eux qui viennent nous proposer des projets dans lesquels ils sont impliqués. Et ils peuvent être impliqués de plein de manières. En fait, c'est assez ouvert. Donc, soit ils sont bénévoles directement d'une association ou adhérents, ou parfois membres du conseil d'administration ou du bureau. Ou parfois, ils ont pu même créer directement eux-mêmes une association.
Mmh. Quelques exemples ? Pouvez nous citer ou on peut les citer peut-être
Oui, alors des exemples de parrains très investis. Alors je pensais à Raphaël Lamouette qui est chez FH Construction et qui a parrainé l'association L'Outil en Main à Angers. C'est une association là aussi qui accompagne des publics assez jeunes en fait pour dès l'âge de 9 ans pour leur faire connaître les métiers manuels, donc tout type de métiers. Ça va de l'électricité à la menuiserie, à la tapisserie, la chaudronnerie, enfin des métiers même un peu disparus ou méconnus.
Mais qui reviennent. Hein,
la taille de pierre, voilà.
Ouais. Donc, L'outil en main, donc c'est à Angers. Voilà. Raphaël Lamouette.
Et lui, il a été très convaincu par ça parce qu'il se rend compte que c'est important de que les jeunes puissent aussi se confronter à la réalité, à apprendre les gestes professionnels et pas juste apprendre de la théorie. Donc il a beaucoup aidé l'association pour notamment nouer des partenariats avec des entreprises sur ces différents métiers qu'ils font découvrir.
Autre parrain investi
Alors on a, on a aussi beaucoup de parrains retraités, c'est vrai, qui sont donc retraités des FAGE, mais qui continuent à être actifs dans leur vie associative. Donc on a l'exemple d'Alain Andert récemment, donc aussi chez FH Construction en Touraine, qui a parrainé l'association Agir ABCD. Donc c'est une association qui accompagne notamment des personnes récemment arrivées en France pour favoriser leur intégration, les aider à apprendre le français. En l'occurrence, c'était aussi aider des jeunes qui sont dans des CFA, donc en apprentissage, et qui, voilà, pour les aider, les soutenir dans leur scolarité, notamment dans toute cette période là des différents confinements, les étudiants étaient un peu désemparés. Et c'est aussi aider beaucoup des jeunes... par exemple des mineurs non accompagnés, enfin des jeunes issus de la protection de l'enfance, donc qui ont quand même un environnement un peu fragile. Donc lui, c'était un bénévole très engagé sur le terrain, en fait, pour accompagner directement ces jeunes. On a beaucoup d'exemples après dans les parrains retraités.
Ouais.
Bon, on peut pas tous les citer.
Non, mais c'est important de ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est que c'est important de dire, c'est voilà, on soutient des projets, des associations qui travaillent avec les enfants, avec des primo arrivants, qui font de l'aide à l'entrepreneuriat. La manière de s'impliquer, ça, ce sont des combats et des sujets qui touchent différemment. Et donc, chacun peut trouver au sein de la Fondation un projet qui l'intéresse et une manière de s'impliquer dans un des projets.
Ouais. Et puis, 300 projets, ça veut dire 300 parrains aussi qui sont engagés dans ces assos. La Fondation, donc on voit hein, qui a vraiment un rôle fédérateur et qui crée du lien et du sens pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà, il n'y a pas de catégorie d'âge, de métier. Tout le monde est concerné.
Et on parle beaucoup des parrains, mais j'insiste aussi sur l'implication des bénévoles. Et voilà, article 1, où on a des jeunes, donc comme je disais tout à l'heure, qui viennent de milieux défavorisés. Donc c'est un mentorat où un bénévole va accompagner un jeune dans ses études et dans sa scolarité, etc. Donc voilà, il y a aussi le bénévolat qui est vraiment une dimension importante de la Fondation.
Alors justement, on va le voir dans un instant. Juste avant, on a le témoignage justement d'un des salariés, de son implication, c'est Mohamed Amaoui. Lui, effectivement, a décidé de participer activement, de proposer ses services. Et lui, il nous parle de l'insertion des jeunes en situation difficile ou de migrants grâce au sport, notamment. On l'écoute tout de suite, Mohamed Amaoui.
Oui, alors effectivement, grâce à la Fondation EFAGE, tout collaborateur qui a envie d'aider ou d'accompagner une structure, une association par exemple, dans ses activités ou dans son développement, peut devenir parrain et monter un dossier avec l'association pour obtenir un financement, une aide de la part de la Fondation EFAGE. La Fondation EFAGE a pour objectif effectivement d'aider des structures qui ont une vocation notamment sur l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale. Donc ça a été le cas pour moi sur un projet qui a cette vocation-là d'accompagner des bénéficiaires pour une intégration réussie. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un projet qui est porté par Emmaüs Solidarité, un projet qui s'appelle AGIR, donc Accompagnement Global pour une Intégration Réussie. Il a pour objectif d'accompagner des bénéficiaires de l'association pour intégrer un accompagnement sur plusieurs mois pour leur apporter à la fois une formation linguistique, une formation informatique. Et la particularité, c'est qu'il y a un côté sport, activité sportive qui est intégré à ce parcours-là en complément des activités théoriques qui apportent à la fois une ouverture d'esprit et puis une autre capacité à s'intégrer ensemble sur ce programme-là, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Il y a effectivement plusieurs étapes, donc il y a cette première prise de contact entre l'association et le parrain avec les membres de la fondation, donc les chargés de mission. Il y a un rendez-vous qui est organisé sur place pour rencontrer des personnes qui développent le projet de l'association, la visite des locaux, les bénéficiaires, et voilà tout un travail de compréhension, de bien comprendre en profondeur le projet, les objectifs, le modèle économique, les besoins en financement, etc. Et tout un dossier est préparé ensuite et soumis à une commission. Et là, on a été très heureux d'apprendre il y a quelques semaines que ce projet-là, AGIR, a été retenu et qui va pouvoir être financé par la fondation EFAGE. C'est à peu près 40 personnes qui sont concernées sur ces sessions de 12 mois. Donc, elles sont renouvelables deux fois, donc ça veut dire 120 personnes. Donc, c'est des personnes qui sont des bénéficiaires d'une protection internationale, les réfugiés, par exemple, les protections subsidiaires et apatrides. Donc, c'est des demandeurs d'asile, donc on est sur de la population très précaire et très fragile, qui ont besoin d'une formation linguistique, qui a une visée professionnelle. Et cet accompagnement vers l'insertion professionnelle va passer par ces sessions socio-sportives qui va leur permettre de s'intégrer, parce que finalement, ces personnes-là qui viennent d'arriver, elles ont en plus de l'handicap de la langue, elles ont aussi l'handicap de ce blocage-là qui est lié au fait qu'ils ne sont pas complètement intégrés. Donc les valeurs du sport, l'activité sportive intégrée à la situation-là ont cet avantage-là de faciliter leur intégration et de mieux appréhender cette formation de 12 mois.
Voilà le témoignage de Mohamed Amaoui, collaborateur EFAGE, qui est impliqué alors sur plusieurs tableaux. Hein. Lui, il est multicarte, hein, Mohamed.
Oui, c'est vrai qu'il est très modeste, parce qu'il n'en a pas parlé, mais il est aussi le fondateur d'une association qui s'appelle Réavi, dans laquelle beaucoup de collaborateurs d'EFAGE s'impliquent bénévolement. C'est en fait une plateforme pour favoriser le réemploi de matériaux issus de chantiers de déconstruction de bâtiments. Mmh. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et donc justement, comme il est impliqué dans plein d'associations, bah, ça permet de créer des liens entre différentes associations. Là, en l'occurrence, Emmaüs Solidarité, ils étaient très intéressés aussi de pouvoir placer des bénéficiaires qu'ils accompagnent, pourquoi pas au sein de Réavi, puisque Réavi, du coup, emploie aussi des personnes éloignées de l'emploi pour ces activités de réemploi.
Frédéric, voilà, sur ces parcours, on voit que y a des gens très investis, hein, qui n'hésitent pas à pousser plusieurs combats, on dirait.
Oui, effectivement, les exemples sont nombreux et c'est ça qui fait aussi la richesse de la Fondation.
Allez, on en a déjà parlé un petit peu, on va parler également de l'aide aux plus jeunes. Alors, pas les plus petits comme tout à l'heure l'association, mais l'article 1, aider les jeunes dans leur réussite scolaire grâce au mentorat. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que fait article 1.
Je vais laisser parler Diane sur, sur article 1.
Article 1, donc, c'est une association qui accompagne, comme vous disiez, des étudiants issus de milieux modestes, donc qui sont la plupart du temps boursiers et qui sont peut-être susceptibles d'être discriminés par un moment dans leur parcours. Et du coup, l'association leur propose à la fois un accompagnement collectif avec des ateliers de soutien, mais aussi du coup du mentorat individuel par des professionnels issus d'entreprises partenaires d'Article 1. Mmh. Donc c'est vraiment Article 1, c'est vraiment notre partenaire sur tout ce qui est lié à la diversité, l'égalité des chances. Donc Article 1 accompagne 12 000 étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Et ça fonctionne bien, puisque 100% des étudiants sont embauchés après dans les 6 mois qui suivent la fin de leurs études. Et on a beaucoup de collaborateurs en fait qui ont voulu s'impliquer avec l'association depuis maintenant. Ça fait presque 6 ans qu'on les soutient. Donc on a plus de 200 collaborateurs qui mentorent des étudiants individuellement. Mmh. Et il y a aussi d'autres collaborateurs qui vont aller animer des ateliers directement dans les lycées pour sensibiliser les lycéens à la poursuite de leurs études, les motiver, leur donner envie de continuer, leur faire connaître les différentes filières de formation. Donc c'est vrai que ça permet, comme disait Frédéric, à des collaborateurs qui ne sont pas déjà impliqués dans une association, de quand même avoir un engagement bénévole.
Alors justement, on a le témoignage de Richard Alstern, il est collaborateur EFAGE Système Clemcy, et il va nous parler de ce qu'il a fait, son action de mentorat, ce que ça a apporté à sa mentorée et ce que ça lui a apporté à lui. On l'écoute tout de suite.
J'ai entendu parler effectivement de cette action bénévolat pour pouvoir suivre effectivement des jeunes en difficulté d'origine sociale et avec un potentiel effectivement d'évolution et une volonté de faire des études supérieures et j'ai proposé effectivement à l'article 1 de pouvoir m'engager afin de d'épauler de suivre ces jeunes dans leur choix professionnel tout simplement.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre mentoré en ce moment?
C'est une jeune fille qui s'appelle Camille Jules, qui est actuellement à l'école de management de Strasbourg et qui poursuit effectivement des études grandes écoles pour pouvoir se consacrer à des études effectivement un poste de management dans le monde de la logistique et du transport. Effectivement, pratiquement, c'est l'année 2020 était une année qui restait un peu en stand-by. Pour autant, on a réussi à pouvoir échanger au travers d'outils à distance, Teams ou autre, ou Skype, afin de pouvoir l'accompagner dans ses choix. Alors j'ai travaillé surtout sur ses CV, sur ses choix professionnels en termes d'orientation. Elle a voulu effectivement aller sur des spécialités qui étaient présentes dans notre entreprise. Donc j'ai saisi l'opportunité également de la faire venir dans notre entreprise afin de pouvoir la faire rencontrer un certain nombre de profils de personnes qui suivent effectivement le même cursus, ou qui ont suivi le même cursus et qui occupent les postes qu'elle souhaiterait occuper à l'issue de sa formation professionnelle. Que c'est lui donner effectivement une image non plus virtuelle qui lui est transmise au travers de son éducation et de la formation purement éducative, c'est l'amener dans le monde de l'industrie et lui donner effectivement un sens à l'ensemble de la théorie qu'elle enseigne, qu'on lui enseigne, de manière à lui donner effectivement des aspects plus pratiques sur les rouages de l'industrie et des projets concrets. J'ai pu, au travers de la rencontre que j'ai initié avec elle, lui montrer quelles sont les applications concrètes des métiers dans lesquels elle se dirige.
Un petit mot, Richard, pour terminer, qu'est-ce que vous diriez aux collaborateurs des FAGE pour les encourager à s'engager comme vous solidairement?
C'est pas énormément de temps, je veux dire qu'on en parlait aussi précédemment. Ça ne prend, ça reste du bénévolat soit, mais ça ne m'a pas pris énormément de temps. C'est quelques heures par trimestre qui permettent de donner le chemin à un jeune qui est en train qui hésite dans une carrière professionnelle et qui a juste besoin d'un coup de pouce. Et le coup de pouce, qui mieux que ceux qui ont de l'expérience pour leur donner effectivement une visibilité et une motivation dans les métiers de l'industrie qui sont les miens.
Voilà, Richard Alstern qu'on vient d'écouter, le directeur, le responsable commercial chez Énergie Process, Eiffage Énergie Système Clemcy. Quelques heures hein, par trimestre, voilà, c'est pas non plus la lune, on va dire. Il le dit bien, et ça peut changer aussi la vie de ces jeunes qui, souvent, c'est vrai, on est à l'école, mais on n'a pas de lien avec les métiers qu'on veut faire, c'est assez obscur. Là, au moins, ça permet, avec son mentor, de toucher du doigt peut-être une future carrière.
Tout à fait.
Voilà pour en tout cas l'article 1. Il nous reste peu de temps, donc on va continuer. On a eu pas mal d'exemples. En tout cas, voilà, là aussi, les retombées sont extrêmement positives. Si on synthétise, Frédéric Allary, on l'a vu, hein, divers projets. On a eu quelques beaux exemples. On voit que tout le monde est très, très impliqué. On l'a souligné. Voilà, ce qui prime, c'est vraiment l'ancrage dans les territoires et puis soutenir des projets d'innovation sociale.
Voilà, l'implication des collaborateurs. Créer un écosystème solidaire où chacun peut s'impliquer, nos collaborateurs trouver un accomplissement en transmettant leur savoir, leur expertise, en aidant, parce que aider une personne et lui donner un nouveau chemin de vie, c'est quand même formidable. C'est aussi porter les valeurs du groupe. Porter toutes les valeurs du groupe, et la fondation illustre vraiment ça.
Ouais, oui, ça c'est vrai. Et puis au moins c'est pratique, ça aide au quotidien. Et on l'a vu, c'est pas non plus un travail à côté de son travail. C'est souvent quelques heures de son temps. Le projet, alors je pense que c'est pour ceux qui se lancent, c'est quand même on l'a dit, ce dossier à préparer, cette mission. Mais je crois que le retour, tant pour le groupe que pour le collaborateur. Pour le collaborateur lui-même, est très important et assez formidable.
Tout à fait. Et puis comme je le disais, la manière de s'engager, en fonction des projets, des associations, on peut trouver une manière de s'engager d'une façon ou d'une autre. Mmh.
L'innovation sociale, on en parle un mot, Diane Durand, avec certains projets quand même innovants. Le dispositif Premières Heures, par exemple, créé par Emmaüs Défi.
Oui, c'est vrai que ça illustre aussi la diversité des projets. En fait, Emmaüs Défi, donc c'est une association qui aide des personnes en grande précarité, enfin souvent qui sont à la rue, à travers un chantier d'insertion. Un chantier d'insertion, en fait, c'est une structure d'insertion par l'activité économique qui permet à des personnes de travailler 26 heures par semaine en général, tout en étant accompagnées sur le côté social et pour lever tous les freins à l'emploi. Et aider ces personnes à retrouver un emploi. Mais en fait, Emmaüs Défi s'est rendu compte que souvent, des personnes qui vivent dans une grande précarité ne sont pas à même de travailler même 26 heures par semaine directement comme ça. Donc, ils ont mis en place ce dispositif Premières Heures qui permet à des personnes de travailler de manière très progressive, au départ peut-être 2-3 heures par semaine, et puis par palier progressivement de travailler un peu plus jusqu'à atteindre ces 26 heures et de pouvoir ensuite intégrer une de ces structures d'insertion par l'activité économique. Et comme ça a bien fonctionné, bah, ils ont décidé ensuite d'essaimer ça dans différentes villes en France, et notamment à Nantes, où on a soutenu ce même dispositif avec l'association des Eaux Vives, qui accompagne aussi des personnes en précarité. Mmh.
Tiens, autre innovation sociale et environnementale, c'est d'actualité, le bois des demain près de Soissons. Là, c'est de la fabrication de mobilier en bois et métal récupéré.
Ouais, c'est vrai que souvent, les projets qu'on accompagne ont à la fois cette dimension sociale, mais quand même aussi un impact environnemental fort. Et il y a beaucoup de projets liés à l'économie circulaire ou au réemploi. Et donc là, c'est vrai que ce qui était innovant avec cette association, c'est qu'ils ont donc toujours la vocation de faire travailler des personnes éloignées de l'emploi dans un atelier de menuiserie. Et cet atelier est alimenté par uniquement des matériaux en bois issus de la récupération, en fait, soit de chantiers ou autres. Ils ont développé la même chose avec un atelier métal. Donc, ils font aussi des ateliers du mobilier à la fois en bois et en métal avec une partie soudure, ce qui permet de répondre aussi à des métiers qui sont en tension dans leur territoire à côté de Soissons.
Voilà, il y a aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire, le soutien à l'aide alimentaire, évidemment. Plein d'autres choses. Il y a près de 300 projets. On pourrait faire des tonnes d'émissions.
On n'a pas parlé des jardins de Cocagne. Donc là, on a aidé beaucoup de jardins de Cocagne, donc effectivement, ou même au niveau de la fédération. Donc il y a énormément de projets qu'on pourrait citer.
Bon, on fera une autre émission. On rappelle juste en conclusion, Frédéric Allary, voilà peut-être les récapituler les possibilités. Comment on fait pratiquement pour ceux qui nous ont écoutés là pendant 45 minutes, qui se disent moi aussi j'ai envie de participer, très pratiquement.
Pour participer, donc pour ceux qui souhaitent parrainer un projet en faveur de l'insertion professionnelle, ils nous contactent. Pour les associations, ils peuvent soumettre leur projet sur une plateforme qui est optimale, qui est disponible sur notre site internet, donc fh.com. Voilà, et donc
pour les assos, proposer un projet en direct.
Tout à fait, voilà. Et pour les parrains, effectivement, ils peuvent nous contacter, ou passer par l'association.
Voilà. Eh bien, on cite donc les deux artisans de cette fondation, je le disais, qui œuvre au jour le jour et favorise aussi, l'essaimage dans le territoire, de créer du lien, de créer du sens, l'ancrage local, et puis donner un sens aussi à ceux qui sont retraités et qui, poursuivent ces projets. En tout cas, un grand merci à nos deux invités du jour, Frédéric Allary, délégué général de la Fondation EFAGE. Merci beaucoup.
Merci.
Et Diane Durand, chargée de mission donc de cette Fondation EFAGE. On en sait un petit peu plus. C'était un plaisir de faire cette émission. En rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro des Villes et des Hommes.
Des Villes et des Hommes, une émission proposée en partenariat avec EFAGE.